Est-ce que tu peux juste me donner une musique d'avant-match?
Bitch, don't kill my vibes. I can feel
Ah
your
oui, celle-là.
energy from two planets away. I got my. You know?
Salut tout le monde, c'est Melvin. Et bienvenue sur On Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021 que je vais placer, moi, pour le podcast, sous le gage de l'amitié, de la sororité. Parce que c'est un peu l'essence même de ce podcast, de partager des histoires et de faire en sorte que l'on s'inspire les unes des autres. D'ailleurs, dans cet épisode que je fais avec Océane Sarcien-Hugolin, qui est mon amie, qui est vice-championne d'Europe de handball, elle dit cette phrase qui m'a beaucoup plu.
Tout le monde peut inspirer.
Alors, je vous invite à écouter notre conversation un peu intimiste. On a beaucoup rigolé parce que, bon, voilà, on a parlé un peu comme si on était au téléphone. En tout cas, on parle avec sincérité, on parle de sensibilité, d'objectifs, de détermination. Et on revient bien sûr sur l'actualité, donc la médaille d'argent des Bleus au championnat d'Europe. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne rater aucun épisode. Et surtout, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Avant de revenir sur l'actualité, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais.
C'est trop bizarre que tu me demandes ça.
Je te jure. En vrai, j'avoue, pour l'audience, il faut savoir que Océane, c'est une de mes meilleures amies, donc forcément, je la connais, je sais ce qu'elle fait. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît, merci.
Bah, je m'appelle Océane, je viens d'avoir 23 ans. Oui. Je fais du hand actuellement à Crime Mercator. Je suis d'origine guadeloupéenne, née en Normandie. Hein. et voilà. Sauf si tu veux d'autres informations, voilà ma petite fiche.
Je sais pas. Ouais, petite fiche. Est-ce que tu peux. Je sais que tu fais des études aussi, tu peux en parler vite fait.
Je suis actuellement à l'EDEC, qui est une école de commerce, où je fais un BBA online en finance et où je vais passer en master si je finalise mes dernières matières. Donc, il ne me reste plus que 2 matières, donc ça devrait se faire très rapidement. Voilà.
Ok, ça marche. Bon, bah, on va revenir tout de suite sur l'actualité. Tu reviens de ton premier championnat d'Europe, qui est ta deuxième grande compétition internationale avec l'équipe de France. C'est quoi tes impressions après cette médaille d'argent ?
Honnêtement, ça peut paraître égoïste ou un peu, je sais pas vraiment comment dire, parce que c'était ma première médaille, mais J'étais déçue. Franchement, je le dis honnêtement, j'étais déçue. J'étais déçue après la finale, parce que je pense que déjà, quand on joue une finale, c'est pour qu'on joue un match, tout simplement, c'est pour le gagner. Donc, très honnêtement, si je parle juste avec mon cœur, là, j'étais déçue après cette finale. Après, bien évidemment, c'est une belle médaille. Hein. Je pense qu'il y a plein de personnes qui auraient aimé être à notre place, donc je ne crache pas du tout dessus. Franchement, là, il y a plein de trucs qui remontent, donc en même temps je suis en train de réfléchir et d'essayer de faire le tri.
Ouais, d'ailleurs je vois que tu t'agites beaucoup les mains. Du coup, ça te remue émotionnellement, ça se voit de ouf.
Non, mais après, sans même parler juste de la finale, c'est toute la compétition. Je pense que pour moi, c'était ma deuxième grande compétition. Mais déjà, je ne l'ai pas du tout vécu pareil que la première. Ouais. Et ouais, c'est plein d'émotions. Et je pense que le plus dur à faire, en fait, pour moi, le plus dur, ça a été de gérer ces émotions-là, en fait. Et de m'en servir et de sortir un peu la tête de l'eau quand je sentais que j'étais en dedans. Donc voilà.
Ouais. Mais déjà, donc comme tu dis, c'était ta deuxième grande compétition. Il y a une question que je me pose, tu vois, c'est comment est-ce qu'on s'intègre dans un groupe aussi vite, tu vois, parce que mine de rien, tu vois, sur cet euro-là, moi, je t'ai trouvé assez à l'aise sur le terrain. Enfin, plus la compétition avançait, plus je te trouvais à l'aise. Et, Et c'est vrai que je pense que c'est pas forcément très simple de s'intégrer dans un groupe qui vit ensemble depuis un moment, où finalement il y a beaucoup de filles qui, voilà, qui sont là depuis 4, 5, parfois 10 ans. Enfin, comment toi, est-ce que tu t'es rentrée dans ce groupe-là, par rapport justement à ton tempérament, à ta personnalité? Comment est-ce que tu t'es intégrée dans ce groupe-là?
Touché, Malvin. Franchement, merci de me dire que tu m'as senti plus à l'aise, puisque bon, on va entrer un petit peu dans les détails. On a parlé pendant la compète, donc au début, en plus, je revenais un peu du Covid, donc je n'avais pas trop de repères, quoi. Après, je pense que la place. J'ai essayé de pas forcer les choses en fait, puisque j'ai pas un tempérament où je parle forcément beaucoup. Donc déjà, ça aide pas forcément, mais je vais dire que après j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes filles et justement de leur faire comprendre ou de leur faire un peu découvrir qui j'étais, même si ça reste quand même difficile hein, parce que je suis très introvertie, mine de rien. Donc après, l'intégration, elle se fait sur le terrain, je pense. Si les filles voient que tu peux apporter au groupe, elle se fera naturellement. Après, j'ai eu plus d'affinité avec certaines filles, ce qui m'a aussi aidée. J'ai pu parler avec ma famille, mes amis. Et je pense que, mine de rien, le fait que je sois partie à Crime, l'année dernière, enfin cette année, je ne sais même pas, l'année dernière, parce que c'était septembre 2020, ça m'a aidé à m'ouvrir et à aussi comprendre que des fois je devais m'adapter et pas seulement rester sur mes positions. Donc je pense que c'est un mix de tout qui fait que peut-être tu m'as senti plus à l'aise au fur et à mesure, au fil de la compétition. Donc voilà.
Ouais, parce que du coup, on va revenir rapidement du coup sur ton parcours, parce que, enfin, je voulais le faire plus tard dans l'interview, mais vu que tu en parles, c'est intéressant aussi de mettre en contexte les choses. L'été dernier, du coup, tu as quitté Paris, où tu avais toujours joué en tant que joueuse professionnelle et en tant que joueuse de centre de formation. Et c'est vrai que c'était une première expérience que, enfin, je trouve à l'étranger, quand tu as présenté ce choix-là. Moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de bruit qui disaient non, mais c'est pas ce qu'elle fait. Oh, elle va dans un club, bah, elle va à Crime, un club où on sait comment ça peut se passer financièrement, où on sait que nanana, l'adaptation, etc. Et finalement, j'ai l'impression que toi, ce départ-là, il te sert en fait justement à t'ouvrir aux autres et à explorer un peu plus ta créativité sur le terrain, etc. Tu vois.
Bah franchement j'ai entendu hein, même quand les gens m'ont dit mais Océane franchement t'es inconsciente, fais pas ci, hein, fais pas ça, mais comme je l'ai répété à beaucoup de monde, j'étais en paix avec ce choix-là, j'étais vraiment tout était aligné quoi, et moi je l'ai plus pris en fait comme une expérience de vie que un choix uniquement basé sur le handball en fait, dans le sens où je me suis dit, j'ai toujours été dans une zone de confort en étant à Paris, en étant avec ma famille, en étant avec mes amis. J'ai eu cette occasion-là, en parlant avec le coach, en parlant avec les dirigeants, je me suis sentie à l'aise. Et moi, je marche vraiment au feeling. Je marche vraiment, enfin, mon instinct. J'écoute beaucoup mon instinct. J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Il y avait d'autres propositions sur la table. Mais je me suis dit, allez, on va aller voir ce que ça donne. Le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi? C'est ok, tu vas dans un pays étranger, ça se passe mal au niveau handball, mais tu auras appris à parler une autre langue, tu auras appris à découvrir d'autres gens, tu auras découvert une autre culture, tu te seras ouverte et au moins tu seras fixée sur l'expérience à l'étranger. Peut-être que ça t'ira pas et que, ok, tu resteras en France le reste de ta carrière. Mais je préfère. Au moment où j'ai pris ma décision, je préférais, entre guillemets, me mettre un petit peu dans le risque jeune, sachant que y a personne, enfin, personne dépendait de moi, en fait. Me mettre dans cette position-là et voir, et je me suis dit, pour moi, c'était le bon timing. Je le sentais, comme je te dis, je peux pas le. Je pense pas qu'on peut. Honnêtement, je pense pas que je puisse l'expliquer comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais ouais, c'était juste un ressenti, un instant. Voilà.
Ouais, très bien, très bien, très bien.
Et je regrette
Ça
pas du tout
marche.
mon choix maintenant.
Ouais, ben non, non, non. Et puis même, je pense que sur le plan handballistique, ça te sert vraiment. Enfin, sur cet euro, moi, je t'ai trouvé des qualités. Bon, de toute façon, je te trouve toujours des qualités. Mais je t'ai vraiment trouvé des belles qualités, tu vois, de constance, etc. Alors après, j'imagine que tes entraîneurs diront des choses plus nuancées que moi et je leur laisse ce rôle-là. Mais en tout cas. Moi, je trouve que ça te sert beaucoup, notamment en termes de stabilité dans les matchs. Et pour parler un peu de préparation de match, j'ai eu pas mal de questions, tu vois, des personnes qui suivent le podcast pour savoir un peu comment est-ce qu'une sportive de haut niveau ou une handballeuse, du coup, spécifiquement, prépare ses matchs, quel programme alimentaire elle a, quelle prépa physique, quelle prépa mentale, quel travail vidéo. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ces différents points? Je sais qu'il y en a que tu travailles beaucoup. Enfin, voilà.
Bah déjà, je vais commencer par dire que c'est très personnel. Je pense pas qu'on puisse imposer la même routine ou les mêmes choses à chaque athlète. Je pense vraiment que c'est très personnel. Après, pour ma part, moi, je sais que je travaille à la vidéo beaucoup, mais pas forcément que sur l'adversaire, aussi beaucoup sur l'équipe dans laquelle j'évolue. Tout simplement parce que des fois on n'a pas le temps de, surtout pour parler de l'équipe de France, on n'a pas le temps de forcément créer beaucoup d'affinités parce qu'on est très peu de temps ensemble. Donc j'essaye de voir comment mes partenaires jouent, même pendant la saison, vu qu'on s'affronte les unes les autres en Ligue des Champions, de voir un peu leur style de jeu, ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment moins, comment. Voilà comment je peux évoluer à leur côté de la meilleure des manières. Après, pour ce qui est de la préparation mentale, parce que tu l'as abordé, ça aussi c'est très personnel. Il y a des joueuses qui te diront, elles n'en ont pas besoin, puisqu'elles elles en ressentent pas le besoin. Il y en a d'autres qui, et j'ai même encore même nuancé le terme préparation mentale, puisque des fois c'est de l'accompagnement, des fois c'est juste une oreille qui t'écoute en fait. Donc. Donc ouais, même dans la préparation mentale, je pense que faut aussi nuancer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont l'utiliser vraiment à des fins de visualisation. Il y en a d'autres qui vont juste avoir besoin d'un coach ou un accompagnateur mental pour être à l'écoute. Il y en a d'autres qui vont développer aussi, puisque on parle de motricité, on parle aussi de quel profil mental tu peux être. Après, excusez-moi à tous les préparateurs mentaux qui vont écouter ce podcast. Je ne suis pas experte, donc peut-être que les termes que j'emploie ne sont pas les bons.
Ouais.
Mais
Mais
encore
en
une
plus,
fois, ça a
t'as
personnalisé à
raison.
chaque athlète.
Ouais, t'as raison, parce que souvent même, ouais, ça va au-delà de la préparation mentale. Des fois, c'est juste, je sais pas, du développement personnel. Enfin, c'est pas toujours les mêmes outils, en fait. Mais c'est vrai qu'on met tout ça dans un même panier, préparation mentale. Je suis d'accord.
Voilà. Et après, enfin, préparation d'avant-match. Franchement, moi, je suis passée par. J'ai testé plein de choses. Bah, je pense que. Après, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais moi, j'ai testé plein de choses. J'ai testé. Allez, Océane, tu vas faire tout le temps la même chose avant chaque match. Ça, pour ma part, ça n'a pas marché, puisque ça me mettait plus dans un stress dès que j'arrivais pas à faire ce que j'avais prévu que qu'autre. Enfin, j'étais vraiment dans un truc où si je faisais pas ce que j'avais prévu, bah j'étais stressée, alors que c'était justement le but était tout l'inverse. Donc moi, j'essaie juste d'écouter ce que mon corps, ce que ma tête veut au moment présent. Si. C'est pour ça que quand tu me parlais de musique d'avant-match, il y a des fois où je vais être dans un mood où je vais mettre des musiques hyper calmes avant un match. Des fois, je vais écouter de la dancehall à fond. Des fois, ça va être du zouk. Des fois, je vais même passer par des phases un peu pop, un peu électro. Enfin, ça dépend vraiment. Et j'essaie vraiment d'écouter un peu les sensations que j'ai. C'est-à-dire, il y a un match où je vais sentir que je dois faire du vélo avant de commencer le match. Mais je vais faire mon petit vélo. Il y a des fois où je vais sentir que je dois me stretcher plus. J'aime me stretcher plus. Après, le seul truc récurrent, c'est mon casque. Je pense que mon casque avant les matchs, juste ma musique, c'est juste un moment où justement, c'est le moment où ça me permet de me concentrer et d'être focus sur mes sensations. Donc voilà.
Très bien, très bien.
J'espère que j'ai été assez complète.
Mais oui, tout à fait. Et du coup, je t'ai demandé de me choisir une de tes musiques d'avant-match. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me, things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe, bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm winning, bitch, don't kill my vibe. Pourquoi cette musique?
Oh, parce que je pense que j'étais vraiment dans cet état-là pendant les paroles, quoi, elle me parlait. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans essayer d'être le plus performante possible pour le groupe et que je savais que je pouvais l'être qu'en étant dans ma vibes, en fait, qu'en étant dans mon truc. Certes, je devais m'adapter aux autres, je devais analyser les autres équipes, mais je devais surtout pas me perdre moi-même, en fait. Et parce que j'ai commencé cette musique, je suis tombée dessus quand? Je pense à partir de la deuxième semaine du championnat d'Europe, parce que la première semaine elle a été très compliquée pour moi, dans le sens où physiquement, les 7 jours sans rien faire, je les avais un tout petit peu senti passer. Donc voilà, et j'avais pas eu la semaine de travail avec les autres filles, donc je pense que le tout mêlé ne m'a pas forcément beaucoup aidé. Et cette musique, c'était vraiment le truc Océane, ne te perds pas, ne te disperse pas. Reste dans ton truc.
Ok.
Ça veut dire tu prends ce que t'as à prendre, ok. Et le refrain, c'était vraiment. Enfin, de toute façon, c'est Kendrick. Voilà.
De toute façon, c'est Kendrick. J'avoue, il est lourd, il est fort.
Voilà. Et vu que je suis devenue un peu anglophone. Non, je suis devenue. Je comprends un peu mieux l'anglais, c'est vrai. Du coup, ça. Franchement, il y a plein de musiques sur lesquelles je suis tombée et au final, je comprends les paroles, en fait, tout simplement. Et tu les écoutes pas de la même manière. Il y a plein de musiques.
C'est mieux, hein.
Ouais, c'est mieux, hein, franchement. Maintenant, je comprends ce que toi, tu pouvais vivre auparavant.
Ouais,
hein.
C'est ça, la chaîne. Toujours.
Non, mais du coup, voilà. Du coup, okay. Cette musique-là, plus.
Ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, félicitations pour la médaille, je te le redis.
Merci bien.
Ouais, on va s'arrêter là, pour l'instant, sur le tour, sur l'actualité, pour revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu as commencé le handball, notamment parce qu'en fait tu as commencé assez tard, donc à quel âge, par où tu as commencé, et je ne manquerai pas de faire quelques commentaires pour compléter.
Ah, c'est comme ça.
Non mais vas-y.
Non, après au final je sais pas si j'ai commencé si tard que ça. Mais c'est surtout que j'ai pas eu toute la phase comité que beaucoup de jeunes ont pu avoir, toute la phase sélection régionale, tout ça, j'ai pas connu. Donc j'ai commencé à l'ASF Handball, donc le club de ma ville, Fontenay-aux-Roses, ouais. Situé dans le 92, si les gens veulent plus de précision.
Merci.
Du coup, je suis rentrée au pôle... En 2013, je suis rentrée au 2013.
Ouais, moi je suis rentrée en 2014.
Ouais, donc 2013. Mm. De là, je suis allée à Antony. J'ai fait un an en moins de 18 championnats de France. Et l'année suivante, je suis allée en N2 à Issy-Paris-Andes.
À l'époque, ça s'appelait ici Paris-Andes,
où nous avons, l'année d'après, si je ne me trompe pas, nous sommes montés en N1.
Yes.
Et après, centre de formation et le parcours, j'ai envie de dire classique et en même temps pas classique, puisque chacun le vit à sa manière.
Ouais.
Donc voilà, un peu mon résumé en balistique.
Ok, là, tu as fait des jolis bonds. Moi, je vais revenir un peu en arrière. Du coup, est-ce qu'on peut préciser que quand tu arrives au pôle, tu ne savais pas faire de passe, s'il te plaît?
Non, ouais, voilà. Je vais expliquer un peu aux gens parce qu'après ils vont se dire oula. Non, je suis arrivée. En fait, j'ai fait les sélections au pôle. Je savais clairement, franchement,
Tu
j'aime
savais
pas me
courir,
ré...
c'est
je
tout.
n'aime pas, je n'aime pas me réduire qu'à cette condition entre guillemets d'athlète qui court seulement et qui saute, mais je savais faire que ça. Concrètement, je connaissais
Ouais.
pas les règles du handball. On me parlait des termes techniques, j'avais des grands yeux ouverts. Je savais pas du tout ce que c'était. Alors les joueuses. Mais j'étais loin, loin. Franchement, je vais parler de culture handball et QI handball, j'étais au point zéro, même moins 100.
Ouais.
Motricité, moins 90 000. Donc, non, voilà.
Ce qui
Voilà.
est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui danse aussi bien.
Oui, bah, c'est pas la même chose, hein. Il n'y a pas de musique. Après, justement, je me suis servi de la danse.
Ouais.
Pour m'aider dans le hand, je me suis dit, ok, c'est de la rythmique, c'est des rythmes, c'est des temps, c'est des changements. Et depuis que je fais ça, je suis un peu mieux. Je suis un peu mieux.
Ouais,
Et
effectivement,
je vais faire
effectivement.
un petit clin d'œil, puisque franchement, je pense que sans elle, sans ces deux personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Un petit clin d'œil à Sophia Ferry et Kimberley Rutil,
Ouais.
qui m'ont bien poussé dans mes retranchements ma première année de hand, mais ça m'a servi. Donc voilà. Merci
Ouais,
beaucoup.
ok, on leur fera un bisou. Merci les filles, vous êtes vraiment géniales.
Je
Et justement, par rapport à cette Océane-là qui remercie Kimberley Rutil et Sophia Ferry,
Même Mathilde
qu'est-ce que.
Loria, j'allais oublier.
On allait oublier Matou, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à cette Océane-là? Ouais, qu'est-ce que tu lui aurais dit par rapport à ce que tu vis aujourd'hui? Quel conseil est-ce que tu te serais donné à toi-même ou est-ce que tu pourrais donner du coup à quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire aujourd'hui, tu vois?
Déjà, je lui dirais de rester têtu, parce que certes, c'est un défaut parfois, mais ça m'a beaucoup servi. Bon, je lui dirais quand même de calmer son corps un petit peu, des fois, parce
Ouais.
que voilà.
Mais
Mais
têtu par rapport à quoi? Par rapport à
bah,
qui?
têtu par rapport à tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut dire, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, pourquoi on l'a prise, mes premiers stages, mais qu'est-ce que tu nous as ramené Donc, c'est un peu cliché, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un peu cliché, mais tout ce qu'on peut dire, parce que j'étais pas, comment dire, j'étais pas. On mettait pas une pièce sur moi, en fait, au début. Pas du tout. Et je pense que, je sais pas, peut-être je me trompe en disant ça et je me fourvoie, j'ai peut-être une mauvaise opinion ou une opinion faussée, mais entre guillemets, dans ma tête, c'était vrai aussi jusqu'à pas très longtemps qu'on mettait pas forcément une grosse pièce sur moi. Donc c'est ça, quand je dis rester têtu, c'est juste avancer avec détermination et faire ce que tu as envie de faire, faire ce qui te rend bien. La chose que je lui dirais vraiment à l'Océane Dia du pôle, je pense, hein, que. Oh, c'est dur à dire. Hein. Non, mais d'accepter sa sensibilité et d'accepter aussi l'aide. L'aide et l'amour et enfin tout ce qu'on peut te donner en bien, en fait, de l'accepter plus facilement et de pas forcément le repousser à chaque fois. Putain, j'ai l'impression de je raconte ma vie là et tout
Mais non, c'est ce qu'on aime. Non, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai bien aimé dans la nuance que tu as apportée de dire que finalement, rester têtu, c'est pas qu'une réaction à ce que disent les gens. C'est-à-dire, il y en a qui restent têtus en se disant, je vais lui prouver qu'il avait tort. Mais toi, finalement, tu dis, je suis têtu parce qu'au bout, j'ai un rêve. Et donc, c'est ton ambition qui nourrit le fait d'être têtu. Parce que quand on veut démontrer à quelqu'un que finalement, on pouvait y arriver, une fois qu'on y est arrivé, bah, finalement, c'est la fin, parce qu'on n'avait pas de but personnel.
Bah ouais, je pense que là, on parle d'un sujet motivation intrinsèque, extrinsèque, mais dans ce que tu as dit au début, je pense que j'y étais. Je pense que je voulais prouver aux autres et que je me suis très vite rendu compte que, premièrement, ça ne servait à rien, parce que personne ne serait jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui n'irait pas. Mmh. Et deuxièmement, ça me permettait pas d'avoir l'énergie, le boost que je voulais, d'être dans l'énergie que je voulais, d'être ce que je voulais, en fait. D'être bien, d'être... Donc, j'ai bossé sur ça et ça a changé. Et je suis contente, parce que, comme tu as dit, hein, si l'objectif... Enfin, pour ma part, si l'objectif ne venait pas de moi, parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent justement avec des objectifs un petit peu extérieurs et ça fonctionne aussi bien. Mais moi, j'avais atteint ma limite et ça irait loin en disant que maintenant, je suis sûre de ce que je veux, mais au moins, j'ai des objectifs qui peuvent changer, mais j'ai des objectifs.
Dans la suite de ta réponse, tu parlais de sensibilité. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse trop. Parce que je pense que déjà, dans notre société, et en plus dans le sport qui, du coup, appartient à notre société, donc n'y échappe pas, il y a un peu cette idée selon laquelle, finalement, les émotions sont dangereuses dans la vie en société, qu'il faut être capable de s'en émanciper pour réussir, etc. Alors que je pense qu'au contraire, quand on est capable de les accepter et de bien les connaître, ça nous permet de mieux nous connaître pour mieux évoluer dans un groupe. Et je sais que tu partages cette idée. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu ta philosophie là-dessus?
Déjà, je tiens à dire que Melvin, là, tu poses des questions qui rentrent dans le vif du sujet. Tu sais, en plus, tu souris en posant ces questions-là. Voilà. Non, pour moi, c'est... Là, je pense... Enfin, je vais dire des choses. Si des gens de mon entourage écoutent ce podcast, ils vont se dire, mais Océane, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Jamais, normalement, elle fait ça. Mais non, je pense que la sensibilité, chez moi, ça a été... compliqué, enfin ça a été un sujet très très dur à aborder, très compliqué, puisque de par l'environnement familial qui fait que très pudique, hein, déjà de base. Et c'est vrai que c'est la sensibilité, c'est souvent quelque chose qui est ramené à quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui est pas fort et tout. Et justement, moi je trouve, enfin, avec le temps, peut-être je t'aurais pas dit ça il y a 2 ans, hein, mais avec le temps, je trouve que chez moi, cette sensibilité, ça m'a donné la force. En fait, accepter la sensibilité que j'avais en moi, ça m'a donné la force d'avancer. Parce que j'étais toujours dans une sorte de colère, de me battre contre quelque chose, puisque je voulais pas être ça. J'ai trop l'impression de dire des trucs profonds, alors que...
Non, mais t'inquiète, tu peux partager un peu ta life, t'inquiète.
Et non, c'est un sujet qui a été dur pour moi à aborder. Mais que j'ai décidé d'aborder sous un angle qui m'était un peu à l'aise, c'est-à-dire en regardant des conférences, en lisant des livres, en m'informant en fait sur le sujet. En lisant et en écoutant, je me suis rendu compte que si c'était utilisé d'une bonne façon, ça pouvait servir et ça pouvait même me rendre plus forte, m'aider à me sentir mieux. Et surtout aider les autres aussi à me découvrir et à me comprendre. Enfin, je pense que c'est un tout, en fait. Donc la sensibilité, c'est souvent un sujet aussi sensible chez les sportifs, hein, puisque là, j'ai envie de dire, l'imaginaire collectif pense que le sportif, il n'a pas de fêlure, il est là, il avance, que la détermination, que le travail. Et il y a ça, hein, il y a beaucoup de ça, hein, mais il y a aussi... les échecs, les pleurs, la vie tous les tracas du quotidien, en fait, les douleurs, il y a tout. Et justement, pour moi, accepter cette sensibilité, ça a été aussi me délester d'un gros poids, en fait. C'est-à-dire le fait de se dire, j'ai le droit d'être, j'ai utilisé ce mot-là, même si j'aime pas trop, d'être faible. Ça veut pas dire que je travaille pas ou que j'arrive pas que j'arriverai pas à atteindre mes objectifs. Ça veut juste dire que là je suis juste pas dans les conditions pour que ça aille, Et voilà, juste se remettre dans les conditions et repartir de l'avant.
Ouais. Et on voit bien en plus que c'est un outil parce que quand tu es capable d'identifier justement que bah là, tu n'es pas dans les meilleures conditions, on va dire émotionnelles, etc., pour performer, bah le fait de pouvoir l'identifier, ça te permet de pouvoir donner une direction justement à ton travail pour retourner vers la perf. Alors que quand tu ne sais pas et que juste tu n'es pas performant, bah tu es juste perdu et tu n'as pas, pas de boussole en fait pour savoir vers quoi te diriger, quoi.
Ouais. T'es perdu, chez moi ça a été beaucoup d'énervement, hein. C'est le fait de pas savoir identifier dans quel état j'étais, ça m'énervait en fait, puisque des fois j'arrivais pas à faire des choses et j'étais juste face à l'échec et ça m'énervait, je m'énervais, pas forcément contre les autres mais même contre moi et c'était hyper toxique et nocif, donc je suis d'accord avec ce que t'as dit, je suis d'accord complètement avec ce que tu viens de dire.
Comment est-ce que tu vis le quotidien de joueuse professionnelle de handball ? Est-ce que des fois, il y a des choses que tu vis comme des sacrifices ? Est-ce que il y a des... Enfin, comment est-ce que tu vis ce quotidien ? Comment est-ce que tu le décris ? Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Quelle opportunité il t'offre ?
Je pense que le plus compliqué à gérer... c'est ne pas être avec sa famille, quoi, ne pas voir les personnes qu'on aime évoluer, ou enfin voilà. Après, à part ça, pour moi, hein, je suis pas dans quelque chose où je me dis je me sacrifie, où j'ai sacrifié ma jeunesse, enfin ma jeunesse on dirait je suis vieille, mais où justement j'ai sacrifié voilà, j'ai 23 ans, moi j'ai un frère jumeau, et on n'a pas du tout les mêmes modes de vie. Mais quand il me raconte ce qu'il fait, quand on parle et tout, je ne l'envie pas du tout. Parce que je trouve qu'on vit des choses que peu de gens peuvent vivre, des émotions que peu de gens aussi peuvent vivre, des choses, des voyages, des rencontres que je n'aurais pas faites hors du sport. Hein, Melvin ? Donc non, moi, pour moi, ce n'est pas un sacrifice.
Ouais. Non, parce que tu vois, souvent de l'extérieur, il y a souvent cette idée reçue où en fait tu fais des sacrifices. Mais parce que finalement, il y a un modèle de choses qui est considéré comme le plaisir, comme par exemple partir en vacances 2 mois l'été ou ce genre de choses-là. Enfin, alors bien sûr, il y a des choses de cet ordre-là qu'on n'a pas, mais ça n'empêche pas de pouvoir prendre du plaisir dans plein d'autres choses en fait, de notre vie. Et même, par exemple, de pouvoir partir en vacances dans des périodes creuses et du coup d'être tranquille à la plage. Enfin...
Il y a ça, ouais. Et il y a surtout la dimension où... on a connu les périodes de 2 mois de vacances, et même si c'était pas très long. Hein.
Ouais.
mais j'ai envie de dire, les moments que tu passes avec ta famille, t'en as certes moins, mais ils sont hyper qualitatifs. Enfin, pour ma part, ils sont devenus hyper qualitatifs. Ouais. Ça veut dire que je profite et quand je suis avec eux à 100%. Je vais pas être sur mon téléphone, je vais pas être sur les réseaux, je vais être avec eux. Ouais. Et je vais juste profiter. Après, forcément, oui, on peut pas dire que c'est facile tous les jours d'être loin de ses proches, mais comme tu as dit, hein, les périodes creuses où tu peux partir en vacances au soleil, à la plage, tranquillement. Non, franchement, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais j'ai envie de dire, même pour la personne qui travaille en bureau, pour avoir fait un peu d'alternance, c'est pas forcément les gens les plus heureux du monde. Mais il y en a, hein, y a des gens qui sont très contents. Et je veux dire qu'il y a des avantages et des inconvénients partout, donc... Donc ouais, après ça peut paraître un petit peu lointain pour certaines personnes puisque c'est pas quelque chose qui est habituel.
Ouais.
Notre mode de vie, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais
toi, est-ce que t'es heureuse du coup ?
Ah, moi je suis... Franchement, je vais me répéter, mais j'ai jamais été aussi en paix avec mes choix et avec là où j'en suis. Vraiment. Vraiment.
C'est bien.
Bah, écoute. Et toi qui me connais bien, je pense que tu peux en attester.
Tout à fait, tout à fait. Et je suis très contente de t'entendre le dire. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le plus beau match de ta carrière ? Parce que tu parlais d'émotions tout à l'heure, que les gens ne peuvent pas vivre, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a un match ou un moment, un truc qui t'a particulièrement marqué ? C'est pas forcément un match, hein, ça peut être un but, ça peut être un... C'est pas forcément un de tes matchs, ça peut être un match d'un, de handball autre, un match d'une autre discipline, quelque chose qui t'a particulièrement marqué.
Handballistiquement parlant, je vais commencer par là, les choses qui m'ont le match, les matchs, il y en a deux, qui m'ont le plus marqué, c'est en 2013 aux Interpol, c'est un match où j'ai pas joué. J'ai pas joué, j'étais sur le banc. Mais j'étais tellement contente, ça veut dire j'étais juste contente en fait, parce que tout le monde avait sa place dans l'équipe, peu importe que tu sois sur le banc, sur le terrain, il y avait juste cette énergie où, même si t'es sur le banc, c'est comme si tu jouais. Voilà, juste, j'ai juste ça à dire. Donc 2013, ouais, big up au pôle de Châtenay Malabry. après, c'est un match où, concrètement, je me souviens pas du match, mais je me souviens juste de l'énergie et de l'ambiance, c'est la montée en N1. Du coup, match retour, célébration.
Ouais.
On était à,
c'était un match à 110%
de ce qu'on pouvait. Ouais.
Non,
c'était pas oui. Ah, ouais, il y avait pas beaucoup de monde, ouais. Je sais plus si c'était à huis clos, mais il y avait pas. Et sensationnel. Franchement, très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Ouais. Après, dans une autre disciple. Vas-y, désolé, je t'ai juste coupé.
Non, ce que je voulais dire. Non, mais parce que, du coup, t'as pas répondu à la fin de la question qui est. Parce que là, bon, alors, si, en fait, on a un peu parlé, c'est qu'en fait, toi, tu parles d'énergie quand tu parles de.
Après, moi, c'est comment moi je vois les choses. Je dis, c'est très personnel. Oui, non, mais comme j'ai dit, c'est très personnel.
Ouais.
C'est-à-dire, un exemple tout bête. Hein. Le tir contre la Russie que je mets, tout le monde, la première question que les gens me posent, c'est comment vous avez pensé à ça, mais je sais pas en fait, je peux pas vous répondre, c'est juste j'ai senti que voilà, mon corps il a fait ça, il a décidé. C'est peut-être bête à dire, hein, mais il y a des choses qu'on répète à l'entraînement et que bah le corps il réagit juste en fonction parce qu'il y avait la situation propice à. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais, énergie, instinct, ouais. Moi je fonctionne comme ça et voilà.
Ouais, et ben, d'ailleurs je suis en train de lire, je sais pas si tu as lu ce livre, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman.
Je l'ai commandé.
Et justement, ah ok, ben, je suis en train de lire et justement à un moment donné, il parle des différents types d'intelligence qui existent et il y a justement cette notion d'intelligence kinesthésique qui est l'intelligence des athlètes. Qui est une intelligence corporelle, en fait. C'est le corps qui est capable, à force de répétition, de faire des choses, on va dire, considérées comme extraordinaires, mais qui, finalement, pour lui, est éprouvée comme... pas facile, parce que si c'était facile, bah, du coup, tu t'ennuierais et tu le ferais pas, mais qui sont automatisées, et qui te mettent juste dans un état de fluidité, en fait, dans un état où t'es là sans le penser, en fait, dépourvu d'ego, dépourvu de « Ah, j'ai fait ça parce que j'avais envie d'impressionner la galerie. » C'est juste, tu le fais, comme ça.
Et j'aime bien cette notion d'énergie. T'as décrit exactement ce que je voulais dire en termes plus pointus. Mais en plus, on en a déjà parlé, hein, intelligence kinesthésique, intelligence émotionnelle. Ouais. Il y a différents degrés, il y a différentes intelligences. Et non, c'est... Ouais, c'est... C'est beau, hein, moi, je trouve.
Carrément. Ouais, moi aussi, je trouve ça très magnifique. Tout à fait magnifique. Oui. Voilà. Et donc, dans d'autres disciplines, du coup ?
Dans d'autres disciplines ? Je crois que j'en avais parlé dans une interview. Je sais pas si... Enfin, c'est pas une de ces courses, mais c'est l'athlète, en fait, qui m'a touchée. Marie-Josée Pérec. Ouais, tu vois, c'est qui ?
Ça.
Après,
pourquoi t'as touché ?
Puisque je trouve que quand tu la vois courir, quand tu la, elle dégage quelque chose, tu vois, un truc qui est plus grand que elle-même. Même quand tu connais un peu son histoire, Franchement, on parlait d'intelligence émotionnelle, on parlait de vibes, on parlait de mood. Je sais pas si je dis des bêtises, mais ces derniers JO, c'était pas les plus simples. Tu te renseigneras, je ferai pas toute ça. Tu te
Ouais.
renseigneras. Non, parce que je ferai pas tout le. Mais non, je trouve qu'elle a été forte. Elle a été
Ouais.
forte et elle a fait des grandes choses. Ça. Donc
Ouais.
je pense que c'est une des premières athlètes qui m'a vraiment dit, ah ouais, le sport, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours aimé le sport. Voilà. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé faire du sport. Et je pense que c'est à partir du moment où je l'ai vu, enfin je l'ai vu, puisque je ne l'ai pas vu, puisque j'étais jeune, quoi, mais on m'en a parlé, et du coup je suis allée regarder sur YouTube, et je me suis intéressée à elle, à ce qu'elle faisait. Je me suis dit, le sport, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Genre, c'est pas juste. Non, mais c'est pas juste être fort physiquement, en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Et du coup, voilà. Je te dis pas un moment, mais je te dis une athlète. Voilà, désolée.
Ok, super. Et donc, tu réponds à la question qui suit. Est-ce que, du coup, il y a des athlètes qui t'inspirent particulièrement ou des figures qui t'inspirent particulièrement dans ton travail quotidien? Oui ou non?
Oui ou non? qui m'inspire? Bah pas forcément des grands athlètes ou mais juste des fois je regarde mes partenaires tout simplement hein, que ce soit en club ancienne nouvelle partenaire que ce soit en équipe de France tu parlais de parcours et tu parlais de mon parcours atypique mais au final je pense que tout le monde a un parcours atypique et tout le monde peut inspirer. Voilà, peut-être c'est genre des grandes phrases et tout, mais moi je le vis comme ça. Tout le monde peut inspirer, ça veut dire.
Il n'y a que des philosophes dans ma team.
Non, mais dans le sens où des fois tu vas avoir, je sais pas, une plus jeune pivot que toi, une plus jeune ailière, une plus jeune arrière que toi, et tu vas la regarder, tu vas dire, ok, peut-être c'est pas la meilleure, mais des fois, moi ça m'a fait ça, ça m'a fait ça quand je suis arrivée, je me suis dit. Les gens, ils ont pas forcément entre guillemets tout le packaging qu'on veut à la base, mais c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent et c'est des gens qui sont juste là pour bosser, qui sont altruistes, qui font leur job, qui travaillent dur. Et des fois, ça, c'est simplement ça, en fait. Moi, je trouve que c'est juste ça qui est inspirant, même, je sais pas, de discuter avec des filles d'autres équipes, de discuter tout simplement avec des gens qui peut-être jouent à un plus petit niveau que toi, mais quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que bah, eux aussi ils travaillent en fait pour s'améliorer, alors que derrière il n'y a pas forcément de contrepartie entre guillemets, j'ai envie de dire financière. Et là tu vois la vraie essence du mot travailler et du mot se faire plaisir et du mot aller chercher plus loin. Genre, t'as pas forcément besoin de grands athlètes ou bien sûr les grands athlètes ça impressionne toujours et tout mais moi enfin moi c'est tout ça a toujours été un peu ça quoi un peu mes partenaires un peu les gens qui sont un peu proches de moi où tu regardes et tu te dis ah bah ce que la personne elle fait là c'est cool bah moi je vais essayer ah la manière dont elle pense ok bah je pensais pas comme ça mais elle a peut-être raison. Et voilà, je trouve ça inspirant. Donc
Oh là là, c'est toi qui m'inspire.
voilà.
Trop bien. Une autre petite question, Océane. Pourquoi est-ce que tu fais du handball?
Désolée, hein, mais à la base, je voulais faire du basket. À la base, toute base, tout commencement, je voulais faire du basket. Et il s'est avéré qu'il n'y avait plus de place dans l'équipe de ma ville. Donc voilà, je suis allée au hand. Et non, et du coup, j'ai tout de suite accroché. Mais je pense que ce n'est pas à cause de la discipline en soi. Honnêtement, je vais être honnête. C'est à cause des personnes qui étaient là. Je pense à mon premier entraîneur, Idjad. Juste, en fait, j'ai vu que les gens, ils étaient contents d'être là. C'est assez bête, hein. Mais, tu sais, quand t'es petit, t'es là, tu sors des cours, La première chose que t'as envie de faire, la première chose que j'avais envie de faire, c'est de retrouver ces gens-là et de jouer avec eux et de m'amuser en fait. Donc du coup, on en revient à l'énergie. Je pense que sans, même quand j'étais petite, je pouvais pas mettre de mots sur ça. Je comprenais pas, mais voilà, je comprenais pas, mais je me sentais juste bien là-bas. Donc je pense avant le sport, c'était vraiment les gens.
Ok. Alors ça, tu m'as répondu à
Je
l'instant
suis
fait, donc pourquoi est-ce que tu as commencé le handball? Mais
peut-être.
maintenant, si je te demande pourquoi est-ce que tu fais du handball, du coup, au présent?
Mais pour les mêmes raisons. Je pense que
Ok.
ça continue à nourrir mon intérêt. Je continue à me découvrir au-delà que de la discipline handball. Et c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Avec j'ai découvert de belles personnes à qui je suis toujours en contact. Et non, c'est une école. C'est une école. Ça a été et ça c'est une école pour moi.
Trop profonde quand même.
Non mais
Putain, je t'aime trop.
tu m'as
Je te
dit
jure.
Océane, parle comme si je te parlais à toi Melvin, je te parle comme si je te parlais à toi Melvin. Donc voilà,
Ouais.
je pense
T'aimes
que j'ai
trop.
jamais franchement je pense que j'ai jamais parlé comme ça dans aucune interview et
Ouais.
que voilà.
Ça marche. J'aime bien cette réponse. Est-ce que tu veux bien me faire une suggestion pour un prochain épisode de Round Papers? Ça
J'avais
peut
oublié cette
être
question.
me proposer d'inviter une joueuse, d'inviter une personne, ou ça peut être un thème.
Un
Voilà,
thème.
je suis toute oui.
Non, pour le thème, je pense que tu as déjà beaucoup de suggestions, de propositions, de petites discussions, d'un peu tout. Donc, j'ai pas forcément de thème. Mais personne interviewée. Mais justement, je trouve que, même si c'est l'essence de ton podcast d'être sur le monde un peu professionnel, sur le voilà, mais moi j'aimerais bien que tu ailles un petit peu justement dans ce petit monde amateur là et que tu leur demandes, je sais pas, que je connais pas la personne, bah du coup ça va être, je me suis dit pas un thème, mais peut-être ça peut être un thème.
Ouais,
Mais
du coup.
du coup que ouais, que tu ailles un petit peu dans le monde amateur et leur demander eux ce qu'ils pensent, leur vision du haut niveau déjà premièrement, et ce qui les pousse aussi à aller s'entraîner, parce que en vérité c'est un plaisir hein, tu te défoules, c'est un sport, mais c'est quand même, pour moi c'est quand même ouf de te dire qu'il y a des personnes qui s'entraînent, qui ont un boulot, qui ont des enfants, qui des fois galèrent pour aller en entraînement mais vont à l'entraînement, tu vois. Et moi je pense que ça serait un thème d'aller un peu voir dans les sur le secteur un peu amateur, ou même j'ai envie de dire semi-professionnel comme la D2, hein, ce qu'ils pensent, que leur vision du haut niveau. Voilà. Ce serait bien de confronter un petit peu les visions.
C'est un très bon thème. Merci beaucoup. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux me donner ton contact chez ASICS, s'il te plaît?
Là, toi, tu me mets dans, tu me mets dans des positions délicates. Alors, je ne peux pas. Désolée, désolée de vous décevoir, tout le monde. Non, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner le contact de la personne qui m'a mis en contact avec le monsieur d'Azix.
Ok,
Voilà.
merci beaucoup,
Larissa
Océane.
Anderson, si vous cherchez, hein. Voilà.
Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, puisque Océane n'a pas voulu nous partager justement son contact chez ASICS. Bon, globalement, moi, la conversation, elle m'a fait beaucoup sourire, elle m'a touchée. Et j'espère qu'elle aura inspiré une, deux, trois, peut-être plus de personnes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me faire des retours sur handpaperspodcast@gmail.com ou sur Instagram à @handpaperspodcast. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, la musique du podcast est réalisée par la chanteuse Elia. Vous pouvez la trouver sur Instagram à elia.musique avec un C. N'hésitez pas à la streamer partout, la musique en a besoin en ce moment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.
Thank you.